On parle de survie en forêt, survie 101. Notre prochain invité, il est lui-même, il est propriétaire d'une entreprise, mais aussi il est consultant en survie et pistage pour la Défense nationale et pour la Sûreté du Québec. Mathieu Hébert est cofondateur des Primitifs. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de vous déplacer.
Ça me fait plaisir.
Là, vous êtes dans un territoire qui est moins le vôtre, la ville?
Ah non, la ville, c'est un de mes territoires. J'enseigne aussi la survie urbaine, puis j'aime ça dire que comme le renard, je suis à l'aise en ville comme en forêt.
Comment c'est venu cette passion de dire qu'on me laisse en quelque part, je vais m'organiser, puis je suis capable de me débrouiller avec ce que j'ai entre les mains, là?
Je pense que c'est venu assez jeune. À partir de l'âge de 8 ans, je faisais du camping sauvage avec mon beau-frère. Et puis, on allait en région quand même assez isolée. Puis déjà, à cet âge-là, je savais que si le beau-frère tombait à l'eau ou ma sœur, que là, on était assez isolés, fait qu'il fallait savoir les bases. Puis après ça, ben, j'ai vraiment pris la piqûre. J'ai toujours aimé ça. Quand j'étais jeune, j'allais jouer dans le bois toute la journée. Je revenais le soir, puis c'est ça.
Allez-vous perdre dans le bois?
Oui.
Je l'ai entendu, je l'entends dans mon entourage.
Ouais.
C'était mon activité préférée de jeunesse, c'était me perdre dans le bois. Puis de m'en sortir d'une quelconque façon. Quand vous voyez, comment on se forme pour devenir un consultant? Est-ce que c'est par le débrouillardise,
truc? Non, moi, je crois à l'approche d'avoir un mentor. Je pense pas qu'on peut vraiment devenir efficace en regardant des vidéos, des émissions de télé ou en lisant des livres. Je pense que ça, c'est des bons compléments. Mais un petit peu comme dans les sports, ça nous prend des coachs.
OK,
fait que moi, j'ai été, à partir de 2006, j'ai été aux États-Unis, j'ai fait beaucoup de voyages, par exemple, au Tracker School, qui est une école un peu légendaire. Son fondateur, Tom Brown Jr., c'est une légende vivante là, du monde de la survie et du pistage. Puis après ça, ben j'ai fait d'autres écoles aussi, mais j'ai vraiment passé beaucoup de temps au Tracker School. J'ai trouvé un super bon mentor là-bas et toute une équipe de gens tellement expérimentés. Là. Fait que, tu sais, des fois, on rencontre des gens qui changent notre vie. Mais moi, ça m'est arrivé. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré plein de gens super inspirants. Puis j'ai appris, en fond, c'est une tradition orale, j'ai appris avec des gens qui m'ont montré des choses et moi, je fais la même chose avec mes élèves. Donc, on n'a pas de PowerPoint, on se met dans la forêt puis on apprend les gestes de nos ancêtres puis aussi les gestes modernes, mais on apprend avec des personnes.
Qu'est-ce que vous montrez, vous dites vos élèves, qu'est-ce que vous leur montrez, c'est-à-dire de se débrouiller s'ils se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas recours à de l'aide ou tout simplement se dire, vous voulez faire une expédition de 2-3 jours avec un équipement qui est minimal puis vous allez être capable de vous en sortir très bien?
Notre clientèle est vaste. Puis nos objectifs à nous comme instructeurs, c'est vraiment de rendre les gens confortables en nature. Donc, de retrouver nos instincts. Et la peur puis la panique, c'est une des premières affaires qui va être dangereuse pour les gens. Donc, dans nos scénarios puis dans notre instruction, tranquillement, pas vite, sans que les gens s'en rendent compte, on les acclimate à la nature. Okay. On leur fait vivre des expériences puis on met pas les marches trop hautes. Puis à un moment donné, ben là, on la met très, très haute, la marche. Et puis, ça me fait toujours rire parce que des fois, il y a des gens qui disent « Ah, moi, je suis pas sûr que je vais apprendre quelque chose dans tes cours. Tu sais, j'ai fait beaucoup de choses extrêmes. » Quand je leur parle, je réalise que c'est du camping qu'ils font.
Okay.
Et puis, tout le monde veut que j'aille extrême jusqu'à temps que j'y aille. Puis là, les gens font comme « Ah, non, finalement, c'était plus le fun quand je regardais ça à la télé. » Donc, c'est ça. C'est de vraiment s'acclimater puis d'apprendre des techniques, oui, mais le savoir-faire. Une technique, ça va pas te sauver nécessairement. Donc, c'est pas juste de... On peut comprendre comment nager. Ça fait pas de toi un bon nageur dans une mer déchaînée. Là.
C'est quoi la situation la plus extrême que vous vous êtes soit volontairement exposé ou dans laquelle vous vous êtes retrouvé un peu de façon involontaire?
C'est dur d'en choisir une. C'est de manière involontaire, je pense que, à part quelques folies, là, que ça, c'était du mauvais jugement.
OK.
Je me rappelle à mes débuts, je m'étais mis dans un scénario seul, puis j'avais fait quelques erreurs là, de base. J'étais beaucoup plus jeune. Puis j'avais oublié de vraiment dire où est-ce que j'étais précisément.
OK.
Ça, c'est une grosse erreur que beaucoup de gens font puis qui aide pas les équipes de recherche et de sauvetage à vous retrouver. Et puis, j'avais fait un très mauvais abri.
OK.
Puis à partir de ce moment-là, moi, c'est devenu... Les abris, c'est devenu ma spécialité parce que j'ai failli passer cette fois-là. J'ai fait un très mauvais abri. Puis quand c'était l'hiver, il faisait moins 25. Et puis, par chance, j'avais amené un sac de couchage au cas que ça aille mal. Parce que mon objectif, c'était de ne pas l'utiliser. Sauf que là, je me suis couché dans mon sac de couchage. Il y a eu vraiment froid, ça a été une nuit, je manquais beaucoup de connaissances, ça a été une nuit très difficile. Et au matin, mes mocassins, j'étais très fier de mes mocassins en peau d'orignal, mais j'avais pas expérimenté encore beaucoup avec. Alors, au matin, les mocassins étaient complètement gelés, bord en bord, puis je les avais pliés sur eux-mêmes.
Alors, j'étais donc, incapable de les défaire?
Mon feu était éteindu. Là, je suis seul, il fait moins 25, et là, j'essaie de mettre mes mocassins, mes doigts gèlent, mes pieds gèlent. Puis là, à un moment donné, je prends une pause. Il faut que je rentre dans mon sac de couchage, que je fasse des redressements assis à l'intérieur pour pouvoir la circulation revienne, faire plusieurs tentatives. Là, j'ai vraiment ri de moi énormément. Ça a bien fini, mais ça prend juste un détail, un petit détail qu'on oublie, qu'on n'expérimente pas en situation réelle. Et à partir de là, je me suis dit, ah, si un jour j'ai une école, je vais m'organiser pour que mes instructeurs, quand ils parlent de quelque chose, ils l'aient fait et refait dans différents milieux, dans différents climats. Je suis très exigeant envers mon équipe, puis moi-même.
Les randonneurs qui partent, là, puis il y en a un paquet, puis la majorité des sentiers ici sont assez bien balisés là, pour les sentiers. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qui devrait être l'essentiel de celui qui part comme ça, même s'il est dans une région où tu sais que tu es dans des parcs régionaux, puis il y a des sentiers, mais... À chaque année, il y en a dans les parcs nationaux qui se perdent.
Ah oui, puis il y a beaucoup de monde qui se perd. Il y a différents profils, mais si on parle des randonneurs, puis les chasseurs, par exemple, ou les plaisanciers, oui, se font régulièrement retrouver parce qu'ils veulent se faire retrouver, donc c'est assez facile. Puis, mais ce qu'on voit souvent, c'est un manque de jugement, par exemple l'été.
Oui.
Les gens qui partent l'automne, qui partent l'hiver, ils savent que c'est dangereux. Il y a le froid et la pluie. Bon, l'été, petit t-shirt, short, puis on y va, une petite bouteille d'eau, et puis on réalise pas à quel point, bon, les insectes peuvent être un facteur, mais aussi si on est désorienté, on a décidé de faire une petite aventure, on est capable d'avoir senti, on peut se désorienter super rapidement. Puis la différence de température, j'étais dans un scénario de survivre là, pas longtemps, puis il faisait 27-28 le jour, puis 10 la nuit.
Donc, les vêtements sont pas les mêmes.
Puis si on sait pas comment s'isoler quand on a rien, ben on va vraiment avoir froid. Puis quelques nuits comme ça, ce que ça fait, c'est qu'on brûle énormément de calories. Si on n'a pas les calories pour les remplacer, ben tranquillement on dégénère. Donc ça laisse pas beaucoup de temps aux équipes de sauvetage de venir. Moi, j'essaie d'augmenter le pourcentage de survie de mes étudiants à chaque formation. À mesure qu'ils se spécialisent, ben ils deviennent. Là, l'objectif, c'est d'avoir besoin de rien. C'est l'objectif ultime. Mais on peut pas faire ça dans toutes les conditions. Souvent, on va regarder les randonneurs, ils oublient de dire où ils vont aller. Ils changent d'itinéraire. Okay? Changer d'itinéraire, ça peut être vraiment grave. Si vous répondez pas à l'appel, vous êtes tombé. Là, on se met à vous chercher, mais dans la mauvaise zone, on peut perdre 2 jours à chercher dans la mauvaise zone. Ça, c'est des erreurs qui sont évitables.
Est-ce que du matériel, parce que vous parlez de vêtements, ça va de soi, mais du matériel, exemple... On disait souvent, quand on sort des sentiers peut-être balisés un peu plus, là, du ruban fluo, là, ça, c'est encore valide, ce genre d'affaire-là?
Oui, ne pas se perdre, c'est assez facile de ne pas se perdre, ça prend de la vigilance. Le ruban fluo, ça peut aider, mais il y a des choses dans la nature qu'on peut faire aussi pour dire, s'il y a une équipe qui nous cherche, ou nous-mêmes, on essaie de retrouver notre chemin. Je montrais ça, j'avais un camp de jeunes, ils ont marché 60 km dans le bois. Dans toute la semaine, ils ont fait au moins 60 km. Puis ça faisait, sans qu'ils s'en rendent compte. C'était même pas difficile pour eux parce que ça n'a pas été amené sous forme de randonnée. Mais pour répondre à votre question, on n'utilisait même pas le bandeau rose parce que quand on est en survie, là, on n'a pas prévu être en survie. Fait que souvent, on n'a pas notre sac de survie.
Non, c'est ça.
Souvent, c'est une situation qui arrive sans que les anges soient prêts. Fait qu'on a montré aux enfants comment faire plein de signes pour qu'ils puissent retrouver leur chemin. Puis on a joué à ça. Puis régulièrement, moi, je perds mes instructeurs. Je les amène, puis là, je suis comme une espèce d'aimant. Là, ils se fient sur moi, Puis à un moment donné, je me reviens, je dis, ah, je suis complètement perdu. Puis là, eux, ils n'ont pas porté attention. Puis là, je les prends de court, puis j'adore ça parce que là, après ça, ben il faut qu'ils se pissent, qu'ils fassent du contre-pistage, qu'ils reviennent sur leur piste, qu'ils regardent tout, puis là, ça augmente leur vigilance. Fait que c'est de l'entraînement, l'orientation. C'est pas juste, tu sais, on peut dire, ah, carte et boussole, OK, si tu pars ta carte, si tu pars ta boussole. Fait que c'est un ensemble de compétences, l'orientation.
Notre invité ce matin, Mathieu Hébert, cofondateur des Primitifs. La suite dans un instant. On parle de survie 101 en forêt avec Mathieu Hébert, cofondateur des Primitifs. Ils en font leur spécialité. Puis on parle de survie en été. Je racontais durant la pause à Mathieu que j'étais allé faire une randonnée il y a 3 ans environ, dans le désert de l'Arizona, en plein été. Il fait 45 degrés, ben oui, t'as la bonne idée. Je pars avec une bouteille d'eau et je sais que je suis près de mon point de départ, là. Et je reviens sur mon sentier, puis là, je me dis, coudonc, j'ai pas. Puis je considère que j'ai un pas pire sens de l'orientation, mais je me rappelle pas quel sentier prendre pour revenir. J'ai plus d'eau. Je dois t'avouer que pendant 15-20 secondes, là, j'ai eu un petit moment où je me disais, ah non, c'est pas vrai. Puis j'essaie de me ressaisir, puis finalement, j'ai retrouvé mon sentier pour tourner. Tu dis que même ici au Québec, un des principaux points à surveiller, c'est la déshydratation.
Oui, été comme hiver, mais l'été, souvent, c'est sous-estimé parce que les gens se disent, bon, je suis en forme, je suis habitué, je fais du gym et j'ai accès à de l'eau. Sauf que s'il arrive un avarie, que ce soit quelqu'un de blessé, on a pris un mauvais détour, puis là, c'est super long se réorienter, et puis qu'on n'a pas sur nous quelque chose pour purifier notre eau, non seulement on peut se rendre malade, vous savez, un coup de chaleur, c'est très. On est la pire personne pour diagnostiquer soi-même qu'on va avoir un coup de chaleur. Parce que notre jugement, il se dégrade à mesure. C'est comme l'hypothermie. Souvent, moi, je vais pointer à quelqu'un dans une de mes formations. Je vais dire, oh, là, t'es au début d'un coup de chaleur, t'es au début de l'hypothermie. Voilà, faut que tu t'occupes de toi. Voici quoi faire à partir de maintenant. Et puis la personne me regarde, dit, ben voyons, il exagère. Puis, mais. Quelques heures plus tard, la personne réalise à quel point elle avait été loin. Fait que c'est l'eau, c'est vraiment important. Puis aussi un peu de nourriture, hein, parce qu'on ne peut pas juste boire. Souvent, les gens boivent beaucoup. Il fait chaud, on boit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ils ne remplacent pas leurs électrolytes. Fait que là, à ce moment-là, ça débalance tout. Puis on peut être
mais comment
très bien hydraté.
On peut purifier de l'eau en
juste,
forêt comme ça?
Oui, c'est ça. Puis juste pour terminer, on peut être très bien hydraté puis avoir un coup de chaleur pareil.
Okay.
Et puis ça nous affecte énormément. Bien, dans le fond, une des plus simples façons, c'est faire bouillir l'eau.
Ouais.
Ça fait en sorte d'éliminer tout ce qui pourrait être vraiment nocif pour nous. Et après ça, il y a toutes sortes de filtres. C'est tous des mécanismes, ça peut être pratique. Il y a aussi des solutions chimiques qu'on peut utiliser. Faut faire vraiment attention aux virus. Les protozoaires aussi, les bactéries, toutes ces choses-là. Mais on peut collecter de l'eau. Donc, moi, je recommande aux gens d'avoir quelque chose pour collecter de l'eau. Il fait très chaud, il y a un orage, c'est de la bonne eau. Donc, avoir quelque chose pour pouvoir la collecter. Un simple sac de plastique suffit, un sac de vidange. Un foulard pour collecter la rosée le matin. Moi, à un moment donné, dans un exercice, on s'était poussé un petit peu. Mais on était en équipe, puis on avait eu 2 journées qu'on n'avait pas réussi à faire notre feu. Et puis, parce qu'on n'avait pas de couteau, on n'avait pas d'allumette, on n'avait rien. Et on collectait la rosée, simplement, le matin.
Oui.
Puis on faisait un gros travail, on se dépêchait. C'était une course contre la montre, il faisait très chaud, juste pour collecter la rosée, avant que le soleil se lève, la fasse toute sécher. Puis on avait juste assez d'eau pour passer la journée. On collectait ça avec du linge. Des
carrément, puis en tordant ensuite.
En tordant, puis okay. C'était pas... ça goûtait pas l'évian, là. Mais ça goûtait le marais un peu. Mais ça, on était habitué quand on était instructeur de survie. Mais puis après ça, ben, quand on a eu notre feu, ben là, on a pu aller à la rivière sans crainte, puis bouillir notre eau. C'est ce genre de choses comme ça. Mais il y a des technologies aussi, comme les UV, que vous pouvez aller, même quand vous faites un voyage au Mexique, vous mettez ça dans votre verre, ça détruit tout. Ça prend des petites batteries, mais c'est vraiment pratique pour ne pas être malade.
Une bâche?
Oui.
On peut faire un bout avec sous une bâche?
Il y a plein de choses à faire avec ça. C'est certain que, bon, il n'y a pas d'arbre à bâche.
Non,
y a,
c'est clair, faut
c'est
traîner.
Difficile à réparer, ouais. Une bâche. C'est pas aussi bon que les peaux de nos ancêtres, mais c'est pas lourd. Puis on peut se faire un paquet de choses, des abris. Il y a plein de techniques. On peut faire des pièges avec ça. C'est incroyable, des sacs à dos. Il y a plein de choses. On pourrait faire un cours d'une fin de semaine juste sur l'utilisation des bâches. Donc, c'est une belle pièce d'équipement à avoir qui est simple et pas cher aussi.
Mathieu Hébert, merci beaucoup d'être venu nous voir en studio. Merci d'avoir pris le temps. Je rappelle, ça s'appelle Les Primitifs.
Oui.
Votre compagnie, vous faites des cours de survie comme ça, autant pour les enfants que pour les adultes aussi.
Absolument.
Et il est conseiller également, consultant en survie et pistage pour la Défense nationale et pour la Sûreté du Québec. Bon été. Je sais que tu prends la route vers quoi, Matagami?
Oui, là, on s'en va à Matagami. Un beau trip de pistage de loups puis d'abris avancés pour nos élèves.
Excellent. Je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui nous écoutent présentement dans Rosemont, que ça fait partie de leur quotidien. Un pistage de loup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est bien. 9h45.